R22, tout monde.
Tout monde.
Antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, histoire, création,
création,
politique.
Politique.
Je voulais dire que j'étais très très contente d'être ici. Matinée a commencé par une lecture de poésie. Elle s'est achevée hier soir par des lectures de poèmes sur Radio Brouhaha. Et donc, je voulais remercier à mon tour une nouvelle fois les organisatrices pour ce colloque. Et je dois dire aussi que personnellement, je suis très émue de le voir qu'il voulait pu tenir et le présenter, et je me souviens l'avoir vu naître il y a longtemps à Paris 8, et je suis très heureuse de voir que nous sommes ici aujourd'hui autour des femmes et de la poésie. Alors la séance aujourd'hui est intitulée « La marge ou le centre » et nous écouterons deux interventions. D'abord celle d'Anne Debrosse, je ne sais pas si… Oui, Anne, vous êtes là. Ensuite celle de Chloé Thomas. Je vais présenter d'abord Anne Debrosse. Elle est maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers. Elle s'intéresse à l'auctorialité féminine et à la réception des figures féminines antiques et plus largement aux questions de genre. Elle a publié un ouvrage intitulé « La souvenance et le désir, la réception des poétesses grecques » aux éditions Garnier en 2018 coordonné avec Marie Saint-Martin un horizon du masculin pour un imaginaire du genre, toujours chez Garnier en 2020. Elle prépare en coordination avec Marianne Charrier-Vozel et Agnès Cousson un ouvrage intitulé « Femmes de guerre en France, 16e-18e siècle, jouer avec les représentations », qui devrait paraître en 2022 au Artois Presse Université. Voilà, sa communication aujourd'hui est intitulée « La poésie », un titre très long, « La poésie est un amusement propre à leurs besoins, c'est un art folâtre et subtil, déguisé, parlié, tout en plaisir, tout en montre, comme les femmes, la poésie, un genre pour le beau sexe ». Merci, c'est à vous.
Merci à vous. Alors, je partage mon exemplier, si ça marche. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, vous avez plusieurs… Il faudra me rappeler à l'ordre si j'oublie de glisser, parce que ça, c'est vite arrivé quand on est lancé dans ce qu'on raconte. On a parfois tendance à oublier de passer. Merci d'abord aux organisatrices, évidemment. Je crois que tout le monde l'a souligné, organiser un événement pareil, dans des conditions pareilles, c'est quand même… ça tient de l'exploit. Donc, merci à elles. Et nous allons faire un saut très loin dans le passé, puisque nous allons parler aujourd'hui des poétesses grecques. Alors, mes études portent sur elles et sur leur réception. Alors, je m'appuie tout d'abord sur l'appel à contribution qui propose que, je cite, « si les démarches d'invisibilisation volontaires ou forcées sont plus largement celles des femmes de lettres, la poésie, longtemps considérée comme le plus exigeant des genres littéraires, a cristallisé de manière exacerbée un dispositif d'exclusion dont les créatrices du XXIe siècle sont encore tributaires. » Alors, il s'agit dans mon propos de discuter ce propos, nécessairement réduit bien sûr du fait de sa fonction, c'est un appel à contribution, par l'exploration de la brillante poésie féminine grecque. Alors certes, l'Antiquité grecque présente un visage volontiers misogyne, en tout cas sexiste, ça c'est pas un scoop, hein. Et la chaîne de transmission a d'ailleurs retenu très peu de noms féminins dans certains domaines de la littérature, ou disons, pour être moins anachronique, puisque la littérature n'existait pas, de l'écriture quelle qu'elle soit. Et j'aurais voulu avoir le temps de détailler un peu le cas des historiennes, par contraste avec les poétesses, mais vu le temps, il me suffira de dire que d'une part, elles sont vraiment peu nombreuses, et que d'autre part, elles ont été estimées de nature trop faible pour être de bonnes historiennes. Je vous revois sur l'exemplier à Photius et à Marcellinus. Ou alors, on leur a ôté la maternité de leurs œuvres pour la remettre à leur père ou à leur mari. ou alors on les a masculinisés. Et vous voyez qu'entre Marcellinus et Barbet d'Aurevilly, qui était cité par Christine Planté dans La petite sœur de Balzac, il n'y a pas énormément de différence. Alors peut-être et même sans doute y a-t-il d'autres témoignages plus flatteurs, ils ont en tout cas été perdus. Peut-être y a-t-il d'autres historiennes, en tout cas elles ont été perdues. Il est en tout cas significatif que la postérité a décidé de balayer les historiennes. Et parmi la liste d'historiennes dressée par Silvana Cagnazzi, qui a fait sa spécialité de leur étude, il y en a une cependant qui est incontestable et digne de louange, c'est Aristodama de Smyrne, qui a produit des compositions, je cite, « au cours desquelles elle a dignement fait mention de la nation étolienne et des ancêtres de notre peuple ». Ça, c'est ce que l'on trouve sur une stèle gravée et sur laquelle se trouve le décret qui fait d'elle une citoyenne de Lamia et qui lui accorde des privilèges en récompense de ses écrits. Alors là, on est très heureuse pour les historiennes, mais il se trouve que, manque de chance, c'est une poétesse épique et non pas une historienne à proprement parler. C'est-à-dire que c'était sans doute une poétesse itinérante qui participait à des concours poétiques et qui vivait donc de sa plume, même s'il n'y avait pas forcément de plume à l'époque. Donc la seule historienne avec beaucoup de guillemets qui reçoivent une louange n'est pas une prosatrice à la Thucydide, mais une versificatrice à la Lucain, si on peut faire un rapprochement, suivant une mode hellénistique du poème épique à sujet historique, plongeant ses racines dans l'épopée homérique. Donc nous assistons au triomphe d'une poétesse et pas du tout d'une historienne. De fait, les poétesses ont joui d'une vraie considération dans l'Antiquité grecque. Certes, les historiennes sont sans doute les moins aimées, peut-être parce qu'elles s'emparent d'un genre encore assez neuf et très plastique. Les philosophes sont davantage appréciés sans doute, mais toujours à des degrés variables, et en tout cas nous n'avons plus de texte d'elles. La réception des poétesses grecques antiques, par contraste avec le tableau très noir mais vrai de la postérité des historiennes, semble rose et sans nuages, et à bien des égards, elle l'est. Alors j'ai deux mises en garde à faire, il ne s'agit pas de dire que c'était tout rose, on sait suffisamment que les autrices ne sont pas des auteurs comme les autres. Il ne s'agit pas donc de rechercher les origines bienheureuses et fantasmées d'une littérature féminine à son zénith dans la Grèce antique, chose qui a été suffisamment faite d'ailleurs et de façon inlassable au XVIe, au XVIIe siècle et sans doute même encore au XIXe siècle. Deuxième mise en garde, il ne s'agit pas de produire un raisonnement par le pire. Regardez ailleurs, la situation est bien pire et donc estimez-vous finalement heureuse, hein, on entend ce genre de raisonnement assez fréquemment. Il y a en effet des zones interdites pour les poétesses dans la Grèce antique, mais il s'agit de souligner que quand il y a mauvaise grâce de la part de la réception pour conserver et transmettre, alors les cibles n'en réchappent pas. Les poétesses grecques sont donc, n'ont pas été particulièrement prises pour cibles, elles avaient une vraie légitimité. Certes, il y eut ce qu'on pourrait appeler des mauvais coucheurs, comme Tatien au IIe siècle de notre ère, un prédicateur chrétien qui condamne les poétesses au même titre que les zoophiles. Néanmoins, il n'est pas beaucoup plus virulent à leur égard qu'il ne l'est à l'égard des païens en général, même s'il les estime encore moins pardonnables de s'exprimer parce qu'elles sont des femmes. À part quelques cas particuliers, les poétesses grecques ont été louées de tout temps et par tous. Sappho, bien sûr, reçoit les éloges de Platon et l'une de ses pièces figure dans le traité du Sublime de Pseudo-Longin, très influent pour toute la littérature à partir de la Renaissance. Elle a été présentée comme un modèle par les anciens et par les modernes, à la fois pour les autrices et pour les auteurs. Les spectateurs cultivés qui virent la Phèdre de Racine ont tout de suite décelé la source saphique derrière la fameuse tirade de l'héroïne éponyme « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva de mon âme éperdue ». Erina et Corinne ne sont guère en reste, ainsi que d'autres encore, même si Sappho les surplombe. Leurs textes ont fait l'objet de la sélection de poèmes destinés à passer les siècles, l'anthologie grecque, compilée à l'époque hellénistique. À la Renaissance, ce sont les premières autrices antiques que l'on ait voulu redécouvrir. Elles ont fait l'objet d'une édition savante par l'érudit Fulvio Orsini en 1568, serviteur de l'Église, secrétaire et bibliothécaire d'Alexandre Farnèse, plus d'un siècle avant une entreprise comparable menée par Gilles Ménage qui a conduit à exhumer les philosophes. Pire, sous Jules II, un Médicis épris de Beaux-Arts, Raphaël peignait Sappho et on pense Corinne aussi, en plein cœur du Vatican, sur les fresques somptueuses des chambres de la Signature, et des millions de touristes ont pu les admirer, tandis qu'ils n'ont pu déceler aucune présence féminine dans la célèbre fresque représentant les grands philosophes. C'est que les poétesses grecques avaient droit de citer dans l'institution, les religieuses du début de la première modernité étaient comparées à Sappho, ou l'évoquaient comme modèle pour écrire leurs hymnes chrétiennes, volontiers composées en strophes saphiques, tandis que des auteurs catholiques n'hésitaient pas à utiliser l'adjectif saphique pour leur titre de recueil. Ce rapide tableau idyllique et ses grands traits de réception largement diachroniques ne doivent pas, cependant, induire en erreur. Les temps ont changé entre Marcellinus et Barbet d'Aurevilly, mais aussi entre Sappho, première voix féminine de l'Antiquité grecque qui nous soit directement parvenue, et Marcellinus. Les périodes doivent être regardées avec attention dans leurs particularités, malgré les invariants qui les traversent et les relient. L'Antiquité est un leurre, vous le savez bien, selon les contrées et les moments, les statuts des femmes diffèrent et leurs possibilités également. L'Antiquité grecque n'est pas uniformément empreinte d'un discours misogyne, pas plus que philogyne, exactement comme aujourd'hui finalement. Marcellinus date environ du 5e siècle de notre ère, soit de l'Antiquité tardive, voire du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire 1200 ans après Sappho et seulement 1400 ans avant nous. Il est en un sens plus proche de nous puisqu'il vit dans un monde déjà christianisé dans lequel la voix féminine est audible selon des critères différents de ceux de l'Antiquité grecque archaïque, petite fille du néolithique et fille de l'âge du bronze. Il ne s'agit pas ici de revenir sur les critères de jugement qui d'ailleurs sont eux-mêmes très variables. J'ai cité Tacien, qui rassocie poétesse grecque et zoophile, mais j'aurais pu citer aussi Clément d'Alexandrie, un père de l'Église, qui célèbre les poétesses grecques. Il s'agit en revanche de souligner qu'il serait faux de considérer que les poétesses ont été de tout temps exclues du champ poétique plus fortement que d'autres catégories d'autrices. De l'Antiquité grecque, une bonne vingtaine de noms de poétesses, plus ou moins légendaires, nous sont parvenus. Ces poétesses écrivent le même type de poésie que leurs confrères quand c'est un domaine qui leur est accessible, à tel point que des poèmes ont été attribués à Anacreon ou à Sappho, tour à tour, par exemple. Elles sont souvent citées à l'égal de leurs confrères. Une chose est sûre en tout cas, les véritables exclus d'histoire littéraire sont d'abord celles qui ont écrit autre chose que de la poésie ou dans les genres accessibles aux femmes. Les poétesses ont quant à elles joui d'une réception particulièrement favorable et nourrie. Et il ressort de son étude, de l'étude de cette réception particulièrement favorable et nourrie donc, femmes et poésie entretiennent des liens particuliers depuis les origines de l'écriture par les femmes. C'est ce que je vais m'attacher à montrer dans le temps qui m'est imparti. Et nous le verrons, les poétesses grecques permettent de mesurer la place de la poésie dans l'histoire littéraire des femmes, place qui est fondamentale, ou en tout cas qui est présentée comme fondamentale. Et ça nous permettra aussi de comprendre comment le genre, en sens de gender, a tendu à devenir une catégorie, un genre littéraire, c'est-à-dire qu'on a regroupé les poétesses parce que ce sont des femmes. Les poétesses, en fait, constituent le modèle premier, le noyau de l'écriture féminine. Elles sont sans cesse reprises en exemple et brandies comme preuve de la capacité ontologique des femmes à écrire à l'égal des hommes, ou presque. Alors, pourquoi les poétesses? Pourquoi ont-elles été choisies par la postérité pour franchir le temps, tandis qu'on a choisi d'oublier d'autres types d'autrices? Alors, je vais bien sûr distribuer mon propos en deux parties, l'Antiquité d'abord et ensuite la première modernité, c'est-à-dire le moment où on a redécouvert les poétesses grecques. Donc, dans l'Antiquité, les femmes ne pouvaient pas composer n'importe quel type de poésie, mais les poétesses ont eu du succès et une véritable reconnaissance de la postérité. Très tôt dans l'histoire, et en fait, je ne sais pas depuis quand, mais les témoignages remontent à l'époque archaïque, très tôt dans l'histoire, on a postulé une singularité féminine en littérature perçue comme objective et de plusieurs points de vue. Une première singularisation, très flagrante et incontestable, réside dans la récitation des textes, car, vous le savez, la poésie à l'époque n'était pas faite pour être lue, mais pour être récitée. Donc, les hommes et les femmes étaient parfois distingués lors de cette récitation de texte. En effet, les poèmes antiques les plus anciens sont faits pour être récités ou chantés par des individus ou par des chœurs, et ils sont donc incarnés par les personnes qui les chantent. La plupart des poètes antiques, hommes et femmes, composent des pièces destinées spécialement aux chœurs de femmes, par exemple, ou aux chœurs d'hommes, qui entrent souvent dans un rituel précis. Lors de certains rituels même, la mise en scène voulait qu'un chœur d'homme et qu'un chœur de femme s'opposent et rivalisent par les chants. Deuxième singularisation, pour ce qui est de l'auditoire, il peut également se diviser en auditeurs et auditrices. En effet, certains rituels étaient destinés aux femmes, on l'a vu, d'autres aux hommes, d'autres étaient mixtes. Ainsi, certains poèmes religieux étaient entendus uniquement par des femmes ou uniquement par des hommes selon le rite. Par ailleurs, vous le savez, les poèmes étaient récités dans les banquets, belle époque, et il se trouve que les auditeurs étaient essentiellement des hommes, il y avait parfois des femmes, mais quand même c'était très rare. Les compositions, cependant, pouvaient être soit des compositions d'hommes, soit des compositions de femmes, que ce soit Sappho ou Anacreon, les deux étaient chantés dans les banquets. Troisième singularisation, pour ce qui est de la production des textes elles-mêmes, l'altérité sexuelle existe également. Le critère du sexe est important car il a des répercussions sur la carrière possible. Par exemple, les femmes pouvaient participer au concours poétique, on l'a vu avec notre fameuse Aristodama, mais cela uniquement jusqu'à un certain niveau pendant longtemps, c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas participer aux grands concours internationaux. Elles ont été barrées des grands concours pendant longtemps, elles ont pu s'y glisser pour certaines d'entre elles à l'époque hellénistique, mais c'était encore rare. Et c'est un moment, l'époque hellénistique, où il y a des reines, justement, hein, qui commencent à avoir du pouvoir. Je vous renvoie, et là je n'ai pas oublié donc de faire défiler mon exemplier, à ce que dit Corinne Amyrtis. Elle la blâme de rivaliser avec Pindare, sans doute dans un genre de poétique qu'elle n'aurait pas dû pratiquer. Mais ce fragment, bon, il se trouve qu'il est très, il peut être lu de façon ironique, mais je n'ai pas le temps de développer ici. En tout cas, il y a des limites, et ces limites se ressentent aussi quelque peu dans le type de composition accessible aux femmes. Les femmes ne pouvaient pas, évidemment, composer de pièces de théâtre. Les concours poétiques dans lesquels les pièces étaient produites étaient un domaine entièrement masculin. Les spectateurs étaient seulement des hommes, on le pense. Cependant, elles avaient accès à une palette importante de genres poétiques, y compris les plus prestigieux. Aristodama, vous l'avez vu, compose de la poésie épique. Et elle n'est pas la seule, il y a Édilé, Moïro et d'autres encore. Et cette poésie est reconnue, comme en témoignent les louanges visibles sur papyrus ou sur pierre, comme on l'a vu avec la stèle. Par ailleurs, certaines poétesses ont acquis une réputation importante pour avoir inventé un genre tout bonnement. Anité aurait inventé le genre bucolique, Sappho aurait inventé la strophe saphique, Télésilale vers Télésiléen. Des hommes se placent dans la lignée des poétesses ou discutent avec elles d'égal à égal. Elles font partie de querelles littéraires comme Erina. Il n'y avait pas de problème à les comparer à leurs confrères, surtout dans les temps les plus anciens. Alors, si je renvoie à notre poétesse épique, vous voyez bien que les femmes pouvaient remporter des victoires locales, elles pouvaient vivre de récompenses obtenues en échange de leurs chants. Elles disposaient donc d'une certaine indépendance financière. Dans ce cas, elles étaient accompagnées la plupart du temps d'un proche de sexe masculin. Aristodama était accompagnée par son frère. Mais la louange était très forte et aussi forte que pour leurs confrères. On réfléchit très tôt à une distinction entre les capacités intellectuelles féminines et masculines, c'est vrai, mais il y a une ambivalence forte. C'est-à-dire que vous connaissez toutes et tous Aristote, qui écrit que les femmes ne possèdent pas la faculté de délibérer, de création, d'invention, et qu'elles ne sont pas un principe actif. Cependant, lui-même cite les poétesses comme si elles étaient des poètes comme les autres. Et Platon, d'un autre côté, vous le savez bien aussi, estime que les gardiens de la cité idéale peuvent être indifféremment des femmes ou des hommes, avec les mêmes facultés. Donc la poésie est une façon de composer très ancienne, et elle renvoie à des temps très anciens, et c'est pour ça, à mon avis, que les poétesses grecques ont pu s'imposer. Il n'y a pas de traces de femmes hellénistiques, de femmes philosophes, avant l'époque hellénistique, alors que beaucoup de poétesses avaient déjà laissé leur empreinte dans l'histoire de l'écriture. Il y a une légitimité par sédimentation, si on peut dire. L'ancrage dans les temps anciens apporte une reconnaissance. Les mythes et légendes, d'ailleurs, ne sont pas avares de figures de poétesses antiques. Et le lien entre femme et poésie, ou prophétie, vous savez que les deux étaient très liés hein, à l'époque, était considéré comme une possibilité, et même pire que ça, comme quelque chose de très bien. Phémonoé aurait inventé le vers épique, Daphné aurait fourni le thème de l'Iliade, aurait appris son art à Homère en fait, mais le thème de l'Iliade, c'est Hélénée et Fantasia qui l'auraient fourni à Homère. Enfin, les muses auraient tout simplement inventé la poésie, elles inspirent le poète au sens premier du terme. Sans elles, le poète serait muet, il n'est que le ventriloque des muses. La force poétique et prophétique des personnages féminins est impossible à remettre en question parce que ça remonte à très loin dans l'histoire. Bien sûr, vous pourriez dire, et c'est vrai, comme ça, le sort des muses est un exemple de ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que les muses étaient des déesses poètes, vous l'avez vu, mais elles sont devenues dans l'histoire de simples personnages féminins muets et simplement inspirateurs. Donc la déchéance est toujours possible, même pour des déesses qui au départ règlent l'harmonie des sphères et donc l'harmonie du cosmos. De fait, on a souligné de plus en plus la spécificité des autrices, j'insiste sur ce mot, et Christine Planté a parlé, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc on insiste sur la spécificité des autrices de plus en plus au fur et à mesure des évolutions de la société antique. Et comme vous le voyez dans le canon d'Antipater qui est sur l'exemplier, on a tendu à les réunir et à les étudier ensemble, ce qui a fait qu'on les a extraits des corpus d'auteurs en général. À l'époque hellénistique, alors que les femmes jouissent de possibilités nouvelles, on constitue un canon des poétesses grecques, et c'est le premier regroupement des femmes dans l'histoire, alors que les deux seuls points communs sont leur sexe et qu'elles composent de la poésie au sens large. Ces deux critères sont anormaux. On préfère en général des catégories plus fines et en leur sein l'indifférenciation sexuelle. Par exemple, à la même époque, on fait un canon de poètes lyriques. Dans ce canon, il y a une femme, Sappho, et 8 poètes, hommes, qui sont traités exactement de la même manière. Pour les autrices, le sexe est donc un critère de classement primordial et très ancien, qui est en hiatus avec ceux qui s'imposent pour les autres catégories d'auteurs. Cette particularité du corpus féminin perdure et même semble s'amplifier à travers le temps. J'ai cité Clément d'Alexandrie, au IIe siècle de notre ère, il regroupe dans une même liste les peintres, les philosophes, les poétesses, les sages en tout genre de sexe féminin. Et ces noms de doctes femmes lui servent d'exemple pour prouver que la femme peut atteindre la perfection en tout comme l'homme, parce que la chose n'est pas assurée et ne le sera pas avant longtemps, si toutefois elle l'est d'ailleurs. Dès le IIe siècle, les listes de noms de femmes sont restées dans l'histoire pour telle ou telle qualité, qui sont l'aliment d'une réflexion plus globale sur les compétences de l'ensemble du sexe féminin, qu'on veuille leur en retirer des compétences ou qu'on veuille leur en reconnaître. Ces listes et ces regroupements sont à double tranchant. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit par Christine Planté, encore une fois, à l'ouverture du colloque. D'une part, ça permet de mettre en valeur les poétesses en montrant qu'elles ont été nombreuses. D'autre part, ça les cantonne entre elles et ça revient à les extraire de la littérature en général. Durant la première modernité, les listes comme celle de Clément d'Alexandrie se multiplient, ce qui a abouti à une sorte de dilution de la figure de la poétesse. Mais je vous propose qu'on se penche, dans les 3 minutes qui restent, sur ce qui s'est passé dans la première modernité. Donc, durant la première modernité, on redécouvre les poétesses et on en fait des étendards. Et c'est souvent dans le même but que celui proclamé par Clément d'Alexandrie. Donc, elles font l'objet de regroupements, sur le seul critère du sexe. Et pendant 2 siècles, 16e, 17e siècle, on n'arrête pas de constituer des listes de femmes célèbres dans des ouvrages qui prennent la défense des femmes et cherchent à les promouvoir. C'est la célèbre querelle des femmes. La dilution des poétesses est cependant assez limitée en dehors de ces corpus très spécifiques de la querelle des femmes. Corinne et Sappho, un peu Irina, deviennent les ancêtres en écriture incontournable que les femmes s'attribuent ou se voient attribuer, quel que soit leur type de composition. Pour Louise Labbé, c'est assez normal, elle se réfère à Sappho, elle écrit de la poésie amoureuse. En revanche, Madeleine de Scudéry aussi se réfère à Sappho, et c'est moins évident puisqu'elle utilise un genre nouveau, celui du roman. Mais il se trouve qu'on prête souvent un antécédent antique glorieux aux auteurs, et pour louer une autrice, eh bien, l'antécédent antique glorieux, eh bien, c'est Sappho ou Corinne, et Gisèle Mathieu Castellani, dans La Quenouille et la Lyre, les qualifie de couple ou figure géménaire. Elles sont devenues un lieu commun des louanges au XVIe siècle à l'égard des autrices, poétesses ou autres d'ailleurs. L'enjeu est important, les poétesses grecques sont anciennes et prestigieuses, elles justifient l'accès des femmes à l'écriture et c'est pourquoi on les utilise beaucoup, c'est pourquoi on essaie de les sauver de l'opprobre, la question morale, je ne vais pas en parler puisqu'il y a une communication là-dessus tout à l'heure, et de l'oubli. Cependant, avant même que les poétesses grecques étendent leur protection à l'ensemble des autrices, elles ont été réhabilitées sans doute justement parce qu'au XVIe siècle, la poésie est pratiquée de façon importante chez les femmes comme chez les hommes d'ailleurs. Sappho permet aux femmes de revendiquer la composition dans la veine pétrarchiste qui a tellement inspiré la Renaissance. Les autres permettent de revendiquer une excellence poétique des femmes. Il y a une floraison poétique des femmes en Italie, en France, et je ne reviens pas dessus. Elles écrivent parfois en prose aussi, mais pas dans tous les genres. Et de fait, la poésie pour les femmes est considérée comme un genre accessible. Je vous renvoie à Montaigne. Sur l'exemplier, je ne vais pas lire la citation, c'est le titre de ma communication. En fait, la poésie lyrique, qu'elle soit amoureuse ou religieuse, semble intéressante pour les femmes à plusieurs titres, et c'est pour cela sans doute qu'elle jouit des faveurs des femmes qui usent moins de genre, de diversité. Il y a moins de diversité des genres poétiques chez les femmes que chez les hommes à la Renaissance et au XVIIe siècle, mais elles utilisent aussi moins de genres poétiques que leurs ancêtres grecs. Donc, quels sont les éléments qui font qu'il est intéressant pour les femmes de faire de la poésie? Eh bien, le premier élément, c'est la vertu. La première vertu des femmes, vous le savez, c'est sa respectabilité au XVIe et au XVIIe siècle. Et la prise de parole publique n'est pas évidente. Il y a trois expédients contre ça. Premier expédient, le mythe tenace que la poésie a été écrite pour soi, c'est une poésie lyrique, mais qu'elle aurait été volée et publiée sans le consentement de l'autrice. Deuxième expédient, la poésie lyrique n'a pas de prétention à l'intellectualisme abstrait, pas de prétention à changer le monde. Les femmes n'écrivent pas souvent des traités. On pourrait citer Christine de Pisan, mais c'est une étoile rare. Donc, pas souvent de traité avant la contre-réforme, en fait. Et les femmes apparaissent souvent comme des soutiens de leurs héros dans les conversations de salon. Par exemple, si vous lisez le courtisan de Castiglione, vous le verrez bien. Troisième expédient, Marie-Françoise Piéjus rappelle que la poésie est la langue de communication mondaine au XVIe siècle, c'est-à-dire que les hommes envoient des poèmes dans le cadre d'un échange épistolaire, ce qui fait que les femmes doivent répondre, elles sont contraintes à répondre à cet échange quasiment épistolaire. Il y a aussi toute une réflexion autour des capacités intellectuelles des femmes dans le cadre de la querelle des femmes. La poésie est consensuellement accordée aux femmes comme mode d'expression lyrique. Ce sont des compositions émotives, même si bien sûr, je ne reviens pas sur la définition de lyrique et sur le fait qu'une poésie, c'est toujours extrêmement construit. En tout cas, Montaigne dit que la poésie est frivole, c'est artificiel, ça ressemble aux femmes en quelque sorte. Selon Boileau, le roman est d'ailleurs en fait l'héritier de la poésie amoureuse. Je vous renvoie à la citation. Et donc, il est bien fait pour les femmes et les damerets. Certes, les femmes jouissent de reconnaissance et de récompense de la part d'académies régionales et même de l'Académie française, mais pas plus que leurs ancêtres grecs. Elles ne peuvent atteindre les plus hautes sphères. Elles sont barrées, bien sûr, de l'Académie française. Alors, je conclue en disant que l'intérêt de l'époque pour les œuvres poétiques lyriques féminines est quand même très claire. La première anthologie de femmes auteurs de toute l'histoire, eh bien, c'est une anthologie de poétesses. Elle a été compilée par l'Italien Lodovico Domenici, elle paraît en 1559, et ce genre d'ouvrage montre qu'il est l'indice que des réflexes de lecture genrée s'imposent à l'époque. Et ce qu'on met en valeur, c'est la composition poétique des femmes. Justement, l'anthologie de Domenici, c'est une anthologie de poétesses, pas de philosophes ou autres. D'une part, c'est parce qu'il y a le matériel, il y a eu suffisamment d'écrits de poétesses, et c'est d'autre part aussi parce que le matériel est considéré comme valable et légitime. Après Lodovico Domenici, il y a Orsini, dont je vous ai parlé en introduction, qui a publié une anthologie des poétesses grecques antiques, un ouvrage érudit. En tout cas, il y a une volonté nette de pérenniser les œuvres poétiques. Et je cite une dernière fois Marie-Françoise Piéjus, qui pense que c'est la première fois que la poésie féminine apparaît comme une catégorie susceptible de justifier une publication particulière. C'est un genre littéraire en soi. Donc, on constitue un genre littéraire défini par le sexe et par le type de composition, à savoir, donc, en l'occurrence, la poésie. C'est à double tranchant. Une fois encore, je ne reviens pas sur ce qui a été dit à de nombreuses reprises. Voilà, merci de votre écoute.
Merci à vous pour cette communication très claire qui effectivement nous permet de comprendre la spécificité des poétesses grecques et de leur réception. Est-ce qu'il y a des questions à la suite de cet exposé ?
Je crois que pour l'instant, ni sur le chat Zoom, ni sur le chat YouTube, nous n'avons encore reçu de questions du public.
Alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est passer directement à la deuxième communication et puis ça laissera le temps aux participants de réfléchir aux questions qui vous seront posées. Et on posera à ce moment-là les questions, soit à Anne, soit à Chloé Thomas, que je vais présenter maintenant, qui, dont la communication est intitulée « Une femme qui chante, ne pas se dire poète ». Chloé Thomas est maîtresse de conférences à l'Université d'Angers, où elle enseigne la littérature anglophone et la traduction. Elle a publié une monographie sur Gertrude Stein, « Au bord de l'eau » en 2019, et son dernier livre à paraître le 3 juin est consacré à la première génération de poètes modernistes américains, Stein, Pound, Moore, Eliot, Stevens, Williams. Il s'intitule « Les excentrés poètes modernistes américains » publié au CNRS édition. Elle est aussi traductrice, notamment de Gertrude Stein. Elle a publié « Narration » aux éditions de la Rue du Monde en 2017 et de la poétesse américaine contemporaine Lynn Enyan. L'un suivant, édition Jocasseria, apparaît en 2021. Eh bien, écoutez, c'est à vous, Chloé. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Donc, permettez-moi évidemment de remercier d'abord chaleureusement les organisatrices du colloque pour leur travail qui a permis, mine de rien, à cet événement d'avoir lieu malgré l'adversité. Et dans cette forme qui est quand même assez réjouissante. Et je les remercie d'avoir pensé à me solliciter, en particulier Jofia Zatmari. Mm-hmm. Et je les remercie enfin d'avoir accepté ensuite que je parle de toute autre chose que ce pourquoi elle m'avait approchée, puisqu'effectivement, angliciste de formation et ayant publié sur des femmes poètes américaines établies, Gertrude Stein et Lynn Hagenian, j'ai demandé si je pouvais parler plutôt du chant français. Et de femmes qui, au contraire, donc, font le geste de ne pas se dire poète. Alors, je ne prétends pas ici proposer une analyse systématique de ce geste. En revanche, je voudrais m'arrêter sur trois cas qui m'ont paru saillants et simplement en tirer quelques fils. Donc, ces trois cas sont les suivants. Rennegarde, au XIXe siècle, qui disait, quand on lui demandait si elle était poète, en tout cas c'est ce qu'en raconte Lamartine, « Non monsieur, je suis couturière ». Ensuite Barbara au XXe siècle, qui disait, c'est en tout cas ce qu'en raconte Jacques Tournier, « Je ne suis pas un poète, je suis une femme qui chante ». Et enfin Noémie Lefebvre au XXIe siècle, qui écrit de son dernier texte, « Parle qu'il n'est pas un poème ». Et en prenant mes exemples dans trois siècles différents, je n'espère pas montrer une évolution puisqu'on ne fait pas de statistiques avec trois cas, mais simplement ouvrir à partir de ces trois cas quelques pistes de réflexion. Je commence donc par le 19e siècle avec Rennegarde. Donc, Rennegarde est née en 1810 à Nîmes et elle devient ensuite mercière et couturière à Aix-en-Provence. Elle publie un premier livre, Essai poétique, en 1847, suit un roman en 1855, couronné par le prix Montyon de l'Académie française, un volume de nouvelles poésies qui sont signées Rennegarde couturière en 1861 et un dernier roman en 1869. Elle écrit également en Languedoc et elle est d'ailleurs présente en 1853 aux côtés de deux autres femmes, Troubarello, ainsi que les appels Frédéric Mistral, au pèlerinage des Troubadours à Aix-en-Provence, qui annonce en fait l'établissement quelques années plus tard du Félibrige. Or, ses publications et la reconnaissance de ses pairs, prix de l'Académie et hommage des faits libres, adviennent après l'apparition de Rengard dans la littérature en tant que personnage construit par un auteur masculin. En effet, c'est Alphonse de Lamartine qui lui dédie en 1850 son roman Geneviève, histoire d'une servante, il lui consacre une assez longue préface dans laquelle il relate sa rencontre avec elle en 1846. Alors, je vais m'intéresser ici non tout à fait à la poétesse Rengard, mais au personnage de Rengard sous le male gaze de Lamartine. Je précise néanmoins, si ça intéresse certaines personnes, qu'on peut tout à fait consulter les œuvres de Rengard assez facilement, c'est sur Gallica. Donc, en 1846, il se trouve que Lamartine séjourne à Marseille et il reçoit la visite d'une admiratrice venue exprès d'Aix pour le voir. Lamartine la décrit comme une femme timide et surtout pleine de la conscience de sa classe. Elle ne veut pas qu'on sache à Aix qu'elle est venue le voir parce qu'elle se sentirait ridicule et elle s'excuse de sa toilette. Et quand elle commence à parler de son goût de la lecture, les romans ou les vers, elle rappelle bien d'abord que c'est parce que des messieurs ou des demoiselles de bonne famille ont été assez bons avec elle pour lui prêter à lire les gazettes. Je cite, « Quand il y a quelque chose qu'il pense pouvoir m'intéresser, comme des gravures de mode, des modèles de chapeaux de femmes, des romans bien intéressants ou des vers comme ceux de Reboul, le boulanger de Nîmes, ou de Jasmin, le coiffeur d'Agen, ou des vôtres, monsieur. Car ils savent que c'est tout mon plaisir de lire des vers, surtout des vers qui chantent bien dans l'oreille ou pleurent bien dans les yeux. » Lecture de femmes, donc, est mise sur le même plan que les chiffons. Et quant aux vers de monsieur de Lamartine, qui se retrouve ici à côté de ceux du boulanger et du coiffeur, ils n'en sont pas rabaissés pour autant dans la construction narrative de Lamartine lui-même, puisque c'est d'abord le maître à côté de poètes qui se voulaient lamartiniens et qui l'émulaient, et montrer du même coup que lui-même sait aussi parler aux petites gens en leur procurant une poésie jolie à entendre et émouvante, ainsi que Rengard cerne ici le plaisir que les vers lui procurent. Et entendant cela, Lamartine s'exclame « Ah, j'y suis, vous êtes poète comme vos brises chantent dans vos oliviers ou comme vos rosées qui pleurent dans vos filles. » Non, monsieur, je suis couturière. Pour le personnage de Rengard, donc, on ne peut pas être à la fois poète et couturière, comme bien même on est une couturière qui ferait des vers, puisque poète est un métier censément bourgeois et masculin. Et d'ailleurs, la bienveillance paternaliste de Lamartine ne la pousse pas à changer d'avis. Et lorsqu'elle finit par avouer, je cite, « J'ai même écrit dans l'occasion quelques bêtises », Lamartine reprend, « Ah, vous écrivez des vers, mademoiselle Reine. Je m'en serais douté rien qu'à vos beaux yeux rêveurs. Il n'y a jamais de ciel sans nuages, les rêves et les vers sont des nuages colorés de ces beaux yeux. » Donc l'écriture poétique, une fois confessée, est d'emblée minorée. On n'est pas poète, on écrit des bêtises ou on fait des vers. Et on les fait en tant que femme avec ses beaux yeux rêveurs. Donc on voit ici que Rengard n'est pas seulement personnage de la préface, elle devient objet du discours romantique, destin de la femme dans la poésie, comme le soulignait Adrienne Rich dans l'article séminal « Writing as Revision ». Et quand les femmes écrivent de la poésie elles-mêmes, poursuivait d'ailleurs Adrienne Rich, elles demeurent trop souvent sous ce regard masculin, le public auquel il faut plaire. Et c'est aussi ce qui se joue ici, puisque Rengard finit par produire quelques pages froissées qu'elle tire de son étui, qui sont des vers dédiés à son cher Donneret. Dans la préface, Lamartine les cite, il les coupe avec les ciseaux de l'autorité, et il donne ainsi à Rengard l'une de ses premières publications, mais en prenant soin à la fois d'en contrôler le texte et d'en réobjectiver l'autrice. Et d'emblée, dans son commentaire, il va louer la poésie en la minorant comme il avait minoré l'autrice. J'étais étonnée et touchée de ce que je lisais, c'était naïf, c'était gracieux, etc. Vraie poésie de femme dont l'âme cherche à tâtons sur des cordes les plus suaves d'un instrument qu'elle ignore, l'expression de ses sentiments. À la fin, c'était la poésie à l'état de premier instinct, la poésie populaire telle qu'elle est partout, elle commence dans le peuple, même quand on ne lui prête pas encore la voix de l'âme. Alors on voit qu'ici, la poésie de femme est comprise d'abord comme une poésie sans éducation. Sa deuxième qualité est d'être sentimentale, que le cœur s'y exprime. Et donc on arrive à une forme de poésie féminine comme art populaire, pensé presque comme de l'art brut. Et il y a là-dedans, dans les vers où je redonnerai des choses touchantes, mais Lamartine ajoute d'emblée qu'il ne s'agirait pas encore de penser à publier, imprimer un recueil de poésie. Précaution d'ailleurs bien inutile, puisque Rengard se réécrit tout de suite « Ah monsieur, je n'y avais jamais pensé, moi, faire des livres. » Donc la question est d'emblée évacuée. Et à partir de ce moment-là, dans la préface, en fait, c'est tout l'ensemble de la poésie de Rengard qui est évacuée. On a simplement Lamartine qui va profiter de sa visite, donc de cette brave couturière et mercière, pour réfléchir à un programme esthétique et littéraire pour son propre compte. Et il l'interroge alors sur ce que pourrait être une littérature pour le peuple. Donc il n'est plus question de sévère à elle, il s'agit de voir au contraire comment, par exemple, un Lamartine pourrait tourner les siens pour qu'il parle à tous ceux qui sont mineurs, donc enfants, vieillards, ouvriers et femmes. Et la réponse à ce manque sur lequel il s'accorde, ce n'est pas les vers de Rengard qui n'aura été que le prétexte et le catalyseur. C'est finalement Geneviève, roman d'Alphonse de Lamartine, où l'on trouve cette préface. Donc ce personnage de Rengard témoigne de ce refus pour une femme, que ce refus pour une femme de se dire poète peut relever, et encore une fois, j'en fais pas un systématisme, mais il est mis en scène ici comme un sentiment d'illégitimité vis-à-vis de l'institution littéraire, incarnée par l'écrivain national qu'est Lamartine et par les académies, et c'est d'ailleurs vis-à-vis finalement de l'institution littéraire en général et pas spécifiquement poétique. Puisque refusant de se dire poète, en fait, c'est de toute la création littéraire que Rengard se coupe. Et ce refus du statut de poète n'est pas incompatible avec l'aveu de faire des vers, ce qui suppose intérioriser une distinction non tout à fait entre une bonne et une mauvaise poésie, mais entre une grande et une petite. L'une validée, l'autre par essence illégitime, mais aussi naïve. Mineure dans un sens aussi quasiment de minorité légale. Et enfin, ce qu'on remarque aussi, c'est que dans le geste de ne pas se dire poète ici, il y va de façon à peu près égale autant du genre que de la classe, ce qui est contenu en fait tout entier dans le « non monsieur, je suis couturière ». Néanmoins, c'est ce qui ici, le problème spécifique de la femme dans le champ poétique, comme objectivé en tant que thème du poème, les beaux yeux rêveurs, que signale Lamartine en passant, et soumise dans ses écrits même à la censure masculine, donc les ciseaux par lesquels Lamartine va couper les vers. Voilà pour une première étape, je saute d'un siècle pour passer au XXe. Donc Barbara, je pense que vous connaissez tous beaucoup, beaucoup mieux, née donc Monique Cerf en 1930, issue d'un milieu modeste, elle prend quelques cours de musique classique au conservatoire, puis fait la carrière que l'on sait dans la chanson. Et la qualification « une femme qui chante » à son endroit revient très souvent. On le voit ici, numéro de revue, coffret d'hommage, biographie. Et le succès de la formule tient sans doute à ce que son public la trouvait congruente avec l'image qu'il avait de la chanteuse, une femme féminine et qui chante, simple ajout d'une relative qui dit une relative modestie à l'égard de son statut de star, et ce faisant la rendait aussi plus accessible ou plus intime. Et c'est Barbara elle-même qui choisissait de répondre ainsi quand on lui demandait qui elle était. « Qui êtes-vous ? Je suis une femme qui chante. » La variation la plus connue peut-être sur cette formule, qui est citée alors dans moult nécrologies, biographies, etc., mais que je n'ai jamais trouvée sourcée, c'est une suite de négations. « Je ne suis pas une grande dame de la chanson, je ne suis pas une tulipe noire, je ne suis pas poète, je ne suis pas oiseau de proie, je ne suis pas désespérée du matin au soir, je ne suis pas une mente religieuse, je ne suis pas dans les tentures noires, je ne suis pas une intellectuelle, je ne suis pas une héroïne, je suis une femme qui chante. » Donc, on est une femme qui chante par refus, celui d'une certaine image, image de femme objectivée, personnage public sous le regard des autres, celui d'une classe aussi, les intellectuels, celui d'un statut, une héroïne, avec ce que l'héroïsme suppose de dépossession de soi, celui d'une statue, la star canonisée. Et au milieu de tout cela, donc, ce qui m'intéresse ici, le « je ne suis pas poète ». Qui apparaît en fait avec une petite variation ailleurs. Puisqu'en 1968 paraît ce petit livre de Jacques Tournier, Barbara ou les parenthèses, aux éditions Segers. Les éditions Segers ont été spécialisées dans la poésie, mais avec une collection emblématique qui est Poètes d'aujourd'hui, qui publiait notamment à l'époque Aragon ou Éluard. Et cette collection s'est assez rapidement doublée d'une autre, Poésie et chansons, où sont publiées des anthologies commentées de textes d'auteurs, compositeurs, interprètes contemporains. Donc on y rencontre Jacques Brel, Aznavour, Brassens, Gilles Vigneault, Renaud, etc. Avec un peu moins d'une centaine de titres et un certain nombre de volumes consacrés à des femmes qui chantent, Anne Sylvestre, Cora Vauquer, Edith Piaf. Dans le film que Mathieu Amalric a consacré à Barbara, on voit Jacques Tournier jouer d'ailleurs, et c'est pas inintéressant, par Pierre Michon, donc l'incarnation du grand écrivain, pousser le personnage de Barbara à publier ses textes dans cette collection. Et on voit Barbara refuser. C'est de ce refus qu'est issu le livre de Jacques Tournier, qui est le premier livre consacré à Barbara, et qui en fait correspond à ce qui aurait été une préface à une anthologie de ses textes. Dans ce livre, au fil d'un petit dialogue, réapparaît ce « je ne suis pas poète », mais sous cette forme-ci, qui est un peu différente. « Je ne suis pas du tout un poète. » Ce mot l'effraie, elle s'en défend, devient presque véhémente. « Il y a des poètes parmi les chanteurs, des vrais, pas moi. » Elle répète, « pas moi. » Cette fois, ce n'est pas qu'elle n'est pas poète, c'est qu'elle n'est pas un poète. Et alors chez Barbara, compte tenu du moment, du lieu, du corps d'où elle parle, on peut supposer que dire un poète n'est pas forcément signaler que le nom serait par essence masculin, mais supposer seulement qu'elle parle d'une grammaire dans laquelle le masculin, entre guillemets, l'emporte sur le féminin et tient lieu de neutre. Donc je ne voudrais pas surinterpréter, disons, ce choix du pronom chez elle. Mais l'opposition entre un poète d'un côté et une femme qui chante de l'autre invite à y creuser la question du genre, genre de qui écrit et genre de ce qui est écrit. Et en réalité, pour Barbara, il s'agit à peine d'écriture, puisqu'elle disait qu'elle écrivait mal, et le récit que fait Tournier de son travail montre également que pour elle, la création ne passe pas du tout par la médiation de l'écriture, puisqu'elle travaille intégralement au magnétophone, que ce soit pour les mélodies ou pour les textes. Donc, à ce niveau-là, dire « je ne suis pas un poète », c'est peut-être d'abord dire cela « je ne suis pas un écrivain ». Ce n'est pas dire que la chanson est un art mineur, puisqu'elle admet dans le même dialogue qu'il y a des poètes parmi les chanteurs, c'est simplement que ce n'est pas ce qu'elle fait. En considérant aussi qu'elle apparaît à une époque où la poésie légitime, institutionnalisée, n'est plus la poésie chantée, mais bien la poésie écrite, imprimée. Et Tournier insiste sur le fait que chez elle, dans son travail de création, musique et parole naissent ensemble et sont indissociables. Il l'oppose en cela à Brassens, par exemple, qui peut, sur la même mélodie, plaquer deux textes différents. Chez Brassens, la chanson est donc un poème mis en musique, quand chez Barbara, la chanson est musique et texte en même temps, ce qui fait qu'il n'y a pas de poème avant, et surtout pas donc de poème écrit. Donc dans ce « je ne suis pas un poète », il y aurait davantage une question générique, elle ne fait pas de poésie écrite imprimée, qu'une question genrée. Mais si on s'autorise à dépasser, disons, l'interprétation stricte de ce que voulait dire Barbara, on peut se servir de la phrase et de son pronom pour formuler une autre hypothèse. Puisque s'il y a d'un côté la femme qui chante et de l'autre les poètes, qu'en est-il des hommes qui chantent, donc qui écrivent des chansons? Et quand on creuse un peu la question, on voit que nombre d'entre eux avaient aussi un rapport assez ambigu finalement au mot de poète et au statut de poète. Béranger au XIXe siècle en est peut-être l'archétype, et il en contient d'ailleurs toute l'ambiguïté. Je mets une petite citation de ses mémoires. « Qu'importe aux grands poètes que l'histoire de leur vie soit transmise à la postérité, leur vie est tout entière dans la durée de leurs œuvres. En revanche, un chansonnier, écho plus ou moins fidèle de son temps, n'a pas à espérer une semblable auréole. » Et donc, en ouverture de cette biographie, on a « Ceci n'est que l'histoire d'un faiseur de chansons ». Où l'on retrouve donc l'opposition entre les poètes et les faiseurs de chansons, donc les chansonniers, pas tout à fait les hommes qui chantent en l'occurrence. Mais alors à ceci près que la minoration est en réalité chez Béranger une façon d'être grand, et qu'il écrit ici du haut de sa très grande popularité et conscient aussi de bénéficier d'une forme de reconnaissance poétique, hein, dont il était très fier, notamment de la part de Chateaubriand, Victor Hugo, etc. L'exemple de Brassens, donc pour reprendre un contemporain de Barbara, qui a chanté des poètes, mais qui a aussi écrit, et surtout écrit ses propres textes, est intéressant également à cet égard. On sait que Brassens a raconté l'importance qu'avait eue sa rencontre à l'adolescence avec un professeur de français à qui il avait montré quelques textes et qui l'avait encouragé à travailler, à se familiariser avec les règles de la prosodie et de la rime. Et il dira, suite à cette rencontre, avoir voulu devenir poète. Il commence d'ailleurs sa carrière en publiant des recueils de poésie à compte d'auteur. Mais il est mal reçu par l'institution poétique contemporaine puisqu'il ne gagne pas l'accès aux revues en vogue. Et c'est finalement beaucoup plus tard et par ses chansons qu'il sera consacré poète en recevant notamment le Grand Prix de poésie de l'Académie française. Et à cette occasion, il va dire « Je ne suis pas poète, j'aurais aimé l'être, comme Verlaine ou Tristan Corbière ». Alors, chez Béranger et chez Brassens, et c'est pour ça que je m'autorise ce détour, est fortement intériorisée l'idée d'une poésie officielle ou légitime, celle à laquelle Remgard ne s'autorisait pas à rêver, et celle à laquelle eux ont voulu accéder et qui leur a fermé la porte. La chanson est ensuite valorisée par effet de contraste, par sa capacité notamment à être un genre populaire, ce qui chez l'un et chez l'autre a d'ailleurs un sens politique. Mais si on creuse un petit peu, on voit que Béranger va se distinguer de la poésie légitime d'abord thématiquement, avec des chansons comiques et licencieuses. Mais à cela s'ajoute aussi un trait prosodique, puisque Béranger ne fait pas d'alexandrin, alors grand vers du grand style, mais principalement des octosyllabes. Brassens, à l'inverse, reprend pour partie les traits de la poésie légitime telle qu'elle existait à l'époque de Béranger. Par exemple, il chante parfois des alexandrins et il insiste sur le fait qu'il a étudié la métrique. Quand il dit qu'il n'est pas poète, c'est par comparaison avec Verlaine et Tristan Corbière. Or, il se trouve qu'à l'époque de Brassens et de Barbara, les marqueurs de la poésie institutionnelle et légitime ont changé. Alors certes, il y a encore Aragon, hein, que l'un et l'autre chanteront d'ailleurs, mais Aragon est vraiment le dernier à faire des alexandrins. Et pour le reste, les références poétiques qu'on trouve chez Brassens, par exemple, qu'elles soient des références formelles ou nominelles, sont finalement d'arrière-garde. Brel, Brassens, Ferré, ce sont finalement des gens qui font des rimes et qui comptent les syllabes. Alors, il se trouve que la chanson, évidemment, comme genre, se prête bien à la métrique et aux rimes, elle se prête à la forme. Or, s'y prêter après la Deuxième Guerre mondiale, c'est à nouveau, finalement, faire des vers, comme disait Remgard. En outre, thématiquement, les chansons, et c'est la condition de leur popularité, s'attachent aux émotions. On chante l'amour beaucoup, la montagne, les joies simples, les petites gens. Donc, si l'on revient à Lamartine, on fait de la poésie de femme, jolie à l'oreille et qui parle au cœur. Donc, Brassens, Brel et Ferré, selon cette lecture, ne sont pas non plus poètes, mais eux aussi des femmes qui chantent, c'est-à-dire des poètes qui ont le mauvais goût de faire des vers et d'émouvoir, comme ces octosyllabes de Barbara dans la chanson « Perlin Vimpa », « Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie en écrasant les fleurs sauvages ». Je passe à notre siècle, avec une autrice tout à fait contemporaine, et je vais parler de son tout dernier livre qui est sorti donc en février dernier. Noémie Lefebvre, elle est née en 1964 à Caen, elle a publié 5 livres chez Vertical, plutôt bien reçus, et de nombreux textes en revue. Elle n'a pas de page Wikipédia, il faut que je m'en occupe, et aucun de ses livres n'a encore été édité en poche. Pourtant, c'est vraiment très bien, c'est aussi pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et il se trouve que Noémie Lefebvre, dans ce livre « Poétique de l'emploi » qui date de 2018, rappelle elle aussi que l'alexandrin, c'est désormais la poésie des pauvres. Dans ce livre, la narratrice, chômeuse, vit des droits d'un, je cite, « roman débile » publié sous pseudonyme, dont le titre est « Mais ne voyez-vous pas que la vie est trop courte ?» Conclusion qui s'impose, les alexandrins, c'est bon pour les pauvres qui achètent des romans de gare dans les supermarchés et pour Jean d'Ormesson. Ajoutons d'ailleurs que les pauvres qui achètent des romans de gare dans les supermarchés sont statistiquement souvent des femmes, puisque, comme le faisait déjà remarquer Remgard, je cite, « Ce sont elles, comme je l'ai vu tant de fois dans les soirées de familles d'ouvriers, ce sont elles qui choisissent le livre, qui allument la lampe le dimanche et qui disent « je vais vous lire une histoire ». Et comme le disait Alphonse de Lamartine, il faut donner de sa hauteur quelques récits en prose et quelques chants populaires en vers pour les dimanches du peuple, affamé de lecture et qui n'a pas encore d'écrivain à lire. Or, il se trouve que poétique de l'emploi, outre cette mise en abîme de l'alexandrin pour les pauvres, s'ouvre lui-même sur des vers blancs. Un trait qu'on retrouve assez abondamment chez Chloé Delhomme, par exemple, chez des prosatrices contemporaines, et qui ne remplit pas tout à fait cette fonction de manifester, comme dans les alexandrins pour les pauvres, la langue cultivée et paternaliste, mais au contraire de manifester le jeu conscient avec elle. Donc c'est parce qu'ils sont fondus dans la prose et loin de tout sentimentalisme que les alexandrins deviennent non seulement tolérables, mais intéressants pour une avant-garde littéraire consciente de là d'où elle part. Et le livre qui suit, Poétique de l'emploi, donc, parle, suivi de Tais-toi, qui est paru en février, revient sur la catégorisation générique de Poétique de l'emploi, qui en fait ne porte pas de mention de genre, comme aucun des livres de l'autrice d'ailleurs, sur la couverture. Il la nuance et puis interroge la sienne propre. Leur parle se présente comme un dialogue dans lequel des locuteurs successifs, qui sont signalés par des tirets quadratins, se disputent à propos d'un héritage. J'ai une photo très moche d'une page prise au hasard, mais donc c'est pour montrer qu'il n'y a aucun autre élément que ce dialogue, ni narration, ni verbe de parole, ni nom des locuteurs sur tout le texte. Parle est suivi d'une postface de l'autrice intitulée « Tais-toi », qui, à défaut de définir génériquement le texte qu'on vient de lire, affirme ce qu'il n'est pas dans une réflexion a posteriori sur le texte qui a été généré. Donc, dans une série d'intertitres, « Parle » n'est pas un roman, n'est pas un poème non plus, n'est pas une pièce de théâtre, etc. Et c'est vrai qu'on aurait pu le soupçonner d'être l'un ou l'autre. Et surtout, comme c'est un texte inclassable, on aurait été tenté de faire comme on fait souvent avec les textes inclassables, de les mettre, de le ranger du côté de la poésie. Alors, si on suit la postface, si Parle n'est pas un roman, c'est parce que c'est beaucoup trop court et qu'il y a trop de retours à la ligne. En revanche, c'est là que la postface est la plus longue, pourquoi est-ce que ce n'est pas un poème? Eh bien, Tais-toi nous dit, d'un certain point de vue, c'est presque un poème. En fait, il suffirait de retirer les tirets cadratins pour que ça fasse poème sur la page. La postface revient alors sur Poétique de l'emploi, et pour rappeler cette autre évidence, la présentation en vers sur laquelle sont construits les poèmes de Poétique de l'emploi, espèce de roman de formation à l'usage du chômage, et la manière propre au poème pour rire, poème pour de faux, disons-le, faux poème, mais pas si faux que ça. On voit que donc Poétique de l'emploi devient rétrospectivement un roman composé de poèmes en vers, lesquels ne sont pas des poèmes, puisque les vers, dans cette logique, quelque part, autodétruisent la poésie. Ils ne manifestent la poésie qu'avec une distance ironique, ce qui, évidemment, est très très loin d'être neuf. Et ce qui touche aussi les phrases de Parle, à ce lieu commun de la poésie méfiante esthétiquement d'elle-même comme genre, s'ajoute ce discours peut-être moins commun du poète méfiant sociologiquement de sa caste. Puisque Parle ne peut pas devenir un poème, on dirait même que Parle ne veut pas en être un. Il peut alors se lire comme une opposition à la poésie en tant que domaine organisé en secteur culturel, avec ses festivals, ses marchés, ses résidences, etc. Un petit « I would prefer not to ». Alors, l'autrice rappelle ensuite, avec beaucoup de justesse, cette évidence que le refus de se positionner dans un champ est déjà un positionnement, est déjà une stratégie, comme manifestation, par exemple, d'originalité. Il reste que, dans cette mise à distance, c'est une autre forme de marginalité qui se joue ici. Rengard était marginalisée comme poète par sa classe et son genre. Barbara, par le genre qu'elle exerçait, le genre de poésie qu'elle exerçait. Toutes deux trouvaient leur place dans des institutions au départ marginales et susceptibles de gagner dans le cycle des hiérarchies littéraires un positionnement plus central. Le Félibrige, la chanson française, institutions désormais étudiées à l'école et à l'université et disposant de leur propre canon et de leur grand nom. Noémie Lefebvre, en revanche, parle depuis la marginalité toute relative qui est la sienne, qui est celle des succès d'estime et qui relève, en tout cas dans le récit qu'elle en fait, de ce refus mou d'entrer tout à fait dans le monde, de jouer le jeu d'une institution, quelle qu'elle soit. Il se trouve que dans les pages qui suivent, je vais passer un petit peu vite dessus, mais Lefèvre tacle violemment, au détour d'une note de bas de page, et si on l'a nommée, Nathalie Quintane, et son « Que faire des classes moyennes ?». Je vous mets juste la note, enfin, ceux qui connaissent reconnaîtront. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, elle tacle Quintane, alors à laquelle elle ressemble jusqu'à un certain point. Il y a beaucoup de similitudes de style et de ton, mais il y a une vraie divergence, évidemment, en l'état actuel, entre les deux, c'est une divergence de reconnaissance, puisque Nathalie Quintane a acquis une notoriété et un intérêt universitaire qui sont encore déniés à Noémie Lefèvre et qu'elle ne semble pas rechercher. Et donc, pour éclairer finalement le refus de Lefèvre de faire poème, je vous cite un passage de Tomate, donc Tomate de Nathalie Quintane, que j'ai lu qualifié d'autofictif, mais qui me paraît assez autobiographique, où la narratrice, qui ressemble à beaucoup à Nathalie Quintane, va participer à un festival de poésie de femmes. C'est un festival où on n'a programmé que des femmes, comme si les bailleurs de fonds avaient voulu faire à tout un festival de poésie performance, ratatou que des femmes. Et avec une spécificité supplémentaire qui n'était pas dans le cahier des charges, mais qui s'aperçoit, c'est que non seulement il n'y a que des femmes qui sont des poètes et des performeuses, mais en plus il n'y a que des vieilles femmes. Et donc elle s'interroge sur pourquoi. Et évidemment, pour écrire cela, il faut y avoir été. Il faut avoir fait le choix d'y aller, comme on peut faire le choix de ne pas y aller. Ce qui est assez proche finalement du choix de se dire poète ou pas, de dire ceci est un poème ou pas. Et dans le refus de Lefèvre, comme dans le récit de Quintane, on peut deviner ce qui pousse à le dire. Il y a d'un côté l'art d'être artiste subventionné, avec les souffrances que ça implique, les compromissions que ça implique, dont on peut être tout à fait conscient, et ce que ça rapporte également. Et ce qui pousse aussi justement à ne pas le dire, ne pas se dire poète, qui revient finalement à refuser d'être quelque part l'idiot utile, pas du tout idiot puisque très conscient, d'une institution qui réunira toutes les marginalités, femmes, poètes, vieilles par exemple, en cochant toutes les cases pour le même prix, faisant d'une pierre trois coups dans ce qui relève d'une concession institutionnalisée que le centre doit occasionnellement à la marge. J'en arrive à ma conclusion en revenant à Lamartine. Puisque Lamartine, ravie à la fin de sa préface de sa conversation avec cette brave reine garde, donc, que je mets entre guillemets pour rappeler que ce n'est jamais qu'une construction à l'usage d'une démonstration personnelle, finissait par adouber son personnage. Je n'aurais pas parlé ainsi devant une autre femme de votre état, une autre couturière. Mais vous êtes poète aussi, vos vers m'ont fait oublier vos ciseaux. Et c'est toujours un peu risqué d'oublier les ciseaux. Lamartine s'en croyait seule dotée puisqu'il coupait, on s'en souvient, les vers de la modeste reine. Elle en avait pourtant aussi, et même s'il en fait une chose chétive et bien rétive à publier, elle ne s'en priva pourtant pas. Son fil la relia au poète, c'était le même fil par lequel Emily Dickinson cousait ses livres de poésie qu'elle ne publiait pas, mais éditait quand même. Barbara découpait son ombre chinoise pour en retirer tout ce qu'elle ne voulait pas être, y compris poète, car finalement, qui veut être poète à une époque où être poète, c'est devenu un élitisme, un hermétisme, du peu que le peuple en voit encore. Et Noémie Lefèvre, de son côté, travaille à se couper de la littérature événementielle au profit d'une pensée solitaire et butée, en tout cas dans la mise en scène qu'elle met en place. À chaque fois, il est question d'émancipation. Donc il ne faut pas oublier, et ce sera ma conclusion, que les femmes poètes ont aussi des ciseaux. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette communication qui, j'en suis sûre, va susciter de nombreuses questions. Et en attendant qu'elle se prépare, en fait, des questions ont été publiées destinées à Anne Desbroches. Je crois que vous les voyez, Anne, les questions. Donc, donc trois questions. Écoutez, je commence par la première, je la lis. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en dire plus sur l'association entre la poésie lyrique et les femmes, sur le lyrisme perçu comme un genre spécifiquement féminin? Et on vous remercie pour votre présentation.
Alors, c'est une question effectivement énorme, donc je vais devoir faire bref, parce que bon, la question du lyrisme, c'est une question, comme vous le savez, qui est énorme. Je dirais que dans l'Antiquité, de toute façon, le lyrisme, c'est pour ça que j'ai employé le mot essentiellement pour la première modernité. Dans l'Antiquité, le lyrisme, c'est très large, hein. Dans l'Épître aux Pisons, Horace dit que le lyrisme, c'est pour célébrer les dieux, les enfants des dieux, le pugiliste vainqueur, les jeunes gens, la liberté du vin, etc. Enfin, c'est pour célébrer, quoi. En gros, c'est tout ce qui s'accompagne d'une lyre. Donc, cette catégorie n'est pas forcément très opérante pour l'Antiquité. Enfin, il y a de gros débats là-dessus. Donc, je l'ai utilisé essentiellement, en effet, pour la première modernité. Et là, les 16e et 17e siècles sont une époque quand même charnière, puisque c'est vraiment au 18e siècle que l'adjectif lyrique prend son sens vraiment moderne de association entre la poésie exprimée et une poésie personnelle, la mise en scène d'un jeu finalement. Mais c'est au XVIe et XVIIe siècle que ça commence vraiment à prendre forme. C'est ce qui apparaît notamment après les lectures et analyses du Traité du Sublime. Justement, c'est avec cette lecture du Traité du Sublime que se met en place l'idée que c'est l'expression d'un jeu. Même si ce jeu, bon, on sait bien que jeu poétique n'est pas forcément le jeu autobiographique, etc. Hein. En tout cas, on met en scène un mode de subjectivité personnelle. Voilà, c'est ça. Et il se trouve qu'à partir du moment où on met en scène un mode de subjectivité personnelle, je reprends ça à Nathalie Devoy, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas forcément les mêmes attentes que pour ce qui est d'une poésie qui cherche à, je sais pas, une poésie cosmologique qui essaie de comprendre le monde, si vous voulez. Hein. À partir de là, les ressources peuvent sembler intérieures, et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir, ce qu'a dit Lamartine à l'égard de Rengaard. Hein. Enfin, je crois que ça illustre totalement ce que je suis en train d'essayer péniblement de dire, hein, que en fait, l'association entre lyrique comme expression personnelle et les femmes s'est faite à ce moment-là pour dire qu'il n'y avait pas forcément besoin d'une grande érudition et que c'était un genre pour les femmes à cause de ça, en fait. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est une question énorme. J'ai essayé de faire bref.
Oui, une deuxième question. A-t-on des exemples de poétesses qui cherchent à s'émanciper de ces zones qui leur sont interdites dans la Grèce antique ?
Alors ça, c'est pareil, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que, en fait, il reste des fragments des poétesses grecques. Pour certaines, il y en a même pas mal, mais il est parfois difficile de savoir réellement d'où elles étaient exclues. C'est-à-dire que oui, la poésie, comme je le disais, dramatique, elles en sont exclues. Et là, il n'y a pas de traces de femmes qui aient pu, qui aient même tenté hein, de participer à des concours dramatiques. Après, il n'y a pas de papesse Jeanne, si vous voulez, hein, chez les poétesses grecques, mais malgré tout, chez certains chercheurs pensent voir des marques, si vous voulez, de revendications ou de combats, on va dire, chez Gnosis, par exemple, la poétesse Gnosis, qui crée un environnement féminocentré, qui fait résonner des œuvres de femmes entre elles, qui se réfère à Sappho. Donc, il y a déjà, si vous voulez, chez elle, on pense une tentative de filiation avec Sappho. Et ça, c'est intéressant, je trouve, par rapport aussi à ce qui a été dit par Christine Planté au début, sur l'idée d'une histoire littéraire aussi, hein, et Audrey Lasserre, c'est-à-dire que cette idée de « il faut s'appuyer sur nos exemples précédents », de femmes, eh ben on trouve déjà ça dans l'Antiquité chez quelqu'un comme Gnosis. Comme si c'était déjà fait l'idée que la poésie était déjà devenue d'un accès plus difficile. C'est pour ça qu'on les regroupe, etc. Ça, c'est à l'époque hellénistique. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de traces. Comme je vous le dis, la poésie épique était ouverte. Enfin, c'est quand même pareil, c'est Schelling hein, qui fait la différence entre poésie dramatique, épique, lyrique. quand même à la fin du XVIIIe siècle, enfin au moment du romantisme. Hein, donc ces catégories sont aussi différentes dans l'Antiquité. Voilà.
Merci. Donc, je crois que la troisième question aussi vous est adressée. Vous parlez dans votre article, donc je pense que c'est dans votre communication qui étudie l'évolution du mot poétesse, du fait que le XVIIe siècle est un premier moment de défiance vis-à-vis de ce terme non hérité des classiques. Comment expliquer cette contradiction apparente entre un genre pour le beau sexe et le refus d'intégrer les femmes poètes dans le langage ?
Merci. Alors là, c'est une personne qui a lu mes œuvres complètes, visiblement, parce que effectivement, enfin complète, non, mais parce que effectivement, j'ai écrit à la suite d'Aurore Evin, hein, qui avait fait le travail sur le mot autrice. J'ai écrit un article qui est paru dans la RHR sur le mot poétesse et les évolutions du mot poétesse. Donc effectivement, dans cet article, oui, c'est vrai qu'au XVIIe siècle, il y a un corsetage de la langue, hein, comme Yann Viennot, entre autres, l'a montré. Et il se trouve que, en effet, le terme poétesse devient plus difficile d'usage. Et pour les femmes poètes, en effet, je pense que, là je me réfère à Martine Reed dans le chapitre qu'elle a écrit sur, alors, le titre c'est « Femmes pour une histoire culturelle des femmes » ou je sais, « Femmes et littérature », où elle dit qu'en effet, il y a une espèce de double contrainte à l'égard des femmes poètes, qui est qu'on leur dit d'un côté « Ah, la poésie, il vaut mieux éviter, de toute façon, être autrice, il vaut mieux être auteur, il vaut mieux éviter, éviter parce que vous vous ouvrez des abîmes de catastrophes et de désespoir, finalement, vous ne pourrez pas avoir une vie normale. » Et d'un autre côté, on leur dit « Ah bah, quand même, la poésie, une femme poète, c'est quand même bien sympathique, il faut faire de la poésie. » Mais il y a toujours, et c'est ce qu'a dit Chloé, et on le retrouve aussi dans les sources anciennes, il y a toujours une espèce de pudeur à se dire poète, poétesse, surtout à partir de certaines époques, sans doute, ce n'est pas une constante, hein, et en raison du fait que poète semble un terme très lourd. Et ce n'est pas pour rien qu'au XVIIe siècle, ce terme devienne trop lourd, finalement. C'est justement après une explosion poétique des femmes au XVIe siècle en Italie et en France, et il y a comme c'est une autrice américaine dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui parle d'un backlash en fait, hein. Il y aurait une sorte de retour de bâton de cette liberté ou libération de la plume féminine, si on peut dire. Il y a aussi le contexte de la fronde et de on casse les reins, si vous voulez, de la puissance politique des femmes au même moment. Voilà, c'était une réponse un peu longue.
Merci beaucoup. Et donc, Chloé, maintenant, donc, la question porte sur la question de la classe liée à celle du genre, Rengard et son statut social, Barbara qui n'est pas selon elle une grande dame de la chanson, hein, et la question est plus générale, comment pensez-vous que la classe et le genre jouent dans ce refus de se dire poète ?
Oui, alors les deux sont très liés, mais à des degrés divers dans les exemples que j'ai abordés. Chez Rengard, c'est vraiment très frappant. Et il y a vraiment quelque chose d'intersectionnel, en fait, quand on l'observe. Et puis, en plus, il y a la question d'une minoration linguistique aussi, hein, puisque donc, elle était de langue maternelle provençale. Sur Rengard, il se trouve qu'on a finalement, enfin, la principale source biographique qu'on a, c'est cette préface de Lamartine, même si on a les œuvres de Rengard, et puis elle apparaît dans les mémoires de Frédéric Mistral, etc. Mais en tout cas, elle se revendique aussi comme couturière, et on peut y voir d'ailleurs peut-être une tentative de se valoriser aussi, enfin, quelque part qui passe plus par la classe que par le genre, mais de se valoriser en tant que poète ouvrière. À une époque où ça faisait partie de la réflexion. Alors, on en voit les prémices, hein, dans Lamartine, et pas de la façon la plus radicale, mais sur la question de voilà, comment... non seulement écrire pour le peuple, mais aussi peut-être faire écrire le peuple. Chez Barbara, je pense que c'est un petit peu différent, simplement parce que l'époque est différente. Effectivement, elle vient d'un milieu relativement modeste, mais qui n'est pas non plus prolétaire du tout. Et quand elle dit « je ne suis pas une grande dame de la chanson », je crois que là, il n'y a pas tellement une question en l'occurrence de classe, mais une prise de distance vis-à-vis de certaines figures comme ça, très statufiées. Enfin, je pense à Édith Piaf, à Friel, qui sont des figures assez tristes aussi, d'ailleurs. Mais finalement, pour l'ensemble des chansonniers, la question de la classe est importante, et donc elle est enfin, forcément investie aussi par les femmes qui écrivent des textes. Et Barbara le remarque elle-même aussi, hein, enfin, à l'époque où elle commence, en fait, il y a très peu de femmes qui écrivent des chansons. La seule qui commence en même temps qu'elle, c'est Anne Sylvestre. Mais à l'époque, en tout cas, les gens avec qui elle travaille, c'est principalement des hommes. Et elle dit d'ailleurs qu'elle s'est mise à écrire. Parce qu'au départ, elle chantait les chansons de ses amis, et notamment Brel, etc. Et elle s'est mise à écrire parce que quand ils écrivaient des chansons d'amour, ça ne correspondait pas à sa propre expérience de l'amour. Donc, dans le fait d'écrire, ça, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais il y a aussi quand même l'idée de réinvestir une expérience féminine propre. Mais on le voit avec Béranger, en fait, et on le voit avec Brassens, vous pouvez le voir avec d'autres, dans le fait de se dire chansonnier, en tout cas, il y a vraiment, non pas un complexe de classe, mais une revendication d'écrire autrement. Et je pense que allez, dans la génération de Brassens et de Barbara, c'est exacerbé par le fait que s'opère, en tout cas, on peut avoir, disons, la vision d'une poésie qui devient de plus en plus hermétique, de plus en plus élitiste, ce qu'elle n'était pas forcément, je pense, à l'époque des poétesses grecques dont il a été question. Le fait, par exemple, que la poésie chantée et non écrite ne soit pas considérée comme de la poésie légitime, finalement, c'est relativement récent, enfin, ça a quelques siècles. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question qui est très large, mais c'est quelques idées que... Ça m'évoque.
Merci. Alors ensuite, c'est plutôt une remarque de Christine Planté. Vous voulez peut-être la développer, Christine, selon... Oui, on ne vous entend pas là. Oui, il faudrait...
Oui. Est-ce qu'on entend ?
Oui, très bien. Merci.
Je trouve les deux interventions d'aujourd'hui très intéressantes parce que elles remettent au devant des débats quelque chose qui est la question de la poésie et d'une spécificité de la poésie dont je ne sais pas d'ailleurs si on peut dire que c'est un genre, hein, puisqu'après on a beaucoup parlé de genre à propos de sous-genre lyrique, etc. Alors que hier, finalement, dans de nombreux moments des échanges, si passionnants soient-ils, on pouvait se demander s'il était question de la position des femmes en littérature ou dans les arts, ou spécifiquement de la poésie. Aujourd'hui, je dirais que c'est le contraire, on est vraiment au cœur de la question, avec du coup son corollaire, c'est est-ce qu'on peut totaliser la poésie ? Est-ce qu'on peut parler de la même façon des poétesses grecques et de Barbara, en passant par Rengard, Louise Labbé ? Et c'est vraiment très compliqué, parce que d'un côté, oui, on le fait, enfin, il suffit de dire poésie, poète, poème, pour que surgisse cet imaginaire qui est social, linguistique, poétique. Et puis, en même temps, il y a quand même une perte, enfin, il y a un risque à totaliser. Et ainsi, alors moi, vos deux communications soulevaient des questions que je vous livre, puis je pourrais après reparler de Rengard qui m'est chère. La première question, c'est est-ce que poésie lyrique, ça veut dire la même chose dans l'Antiquité grecque et au XVIe et au XIXe? Non, hein, je crois que quand même, à la fin du XXe siècle et au début de celui-ci, beaucoup d'antiquisants et d'anthropologues se sont un peu insurgés contre une lecture de Sappho qui créditerait cette poésie d'une consistance psychologique, subjective, sur un modèle, disons, romantique, simplifié et rétrospectif. Donc, il y a vraiment un problème. Il y a en même temps une appropriation féminine, lesbienne de Sappho, dans laquelle Sappho, légende des textes, joue un rôle fondamental. Et puis, il faut se rappeler quand même que probablement, elle ne produisait pas ainsi, elle n'était pas reçue ainsi, enfin, il faut le dire. Et puis, alors, ce qui était très intéressant, Anne, dans votre apport, c'était de dire, bah, contre une perception dominante, je dirais à partir du 19e siècle, que la poésie, parce que c'est très valorisé, c'est très difficilement accessible pour les femmes, ou c'est très disputé ou interdit. Vous rappelez qu'au contraire, enfin, un devenir écrivaine a été plutôt fléché du côté de la poésie pour des raisons différentes. Alors ça, c'est tout à fait convaincant ce que vous avez dit. La question qui se pose, c'est quand a lieu la césure finalement, quand a lieu le renversement, et probablement c'est pour une série de raisons qui ont à voir avec des rapports de genre, mais aussi avec des enjeux politiques. Vous avez évoqué la Fronde, et puis on peut évoquer ce qui se passe après la Révolution française aussi, et l'exclusion des femmes de la construction de la démocratie. Voilà, donc à quel moment ça se joue, et pourquoi ce devenir poétesse encouragé sous condition, basculant dans un poète certainement pas, et poétesse, si vous pouvez l'éviter, c'est aussi bien. C'est une grande question. Et puis, alors, je trouve que la question de savoir pourquoi on ne se dit pas poète, on ne veut pas se dire poète, est évidemment très intéressante pour reprendre les choses à nouveau frais. Après, je suis perplexe sur la possibilité de traiter en série trois moments aussi différents avec ce qui se joue dans le jeu. Alors, il se trouve que je me suis pas mal intéressée à Rengarde, je dois être une des rares lectrices de Rengarde dans votre auditoire, et d'abord, je trouve qu'il lui est arrivé quelque chose d'affreux, c'est cette construction et cette consécration via Lamartine. À la fin du siècle dernier, un colloque sur Lamartine et le féminin qui avait lieu en, je dirais, 1990 ou quelque chose comme cela, avait réuni trois ou quatre intervenants simplement sur Rengarde. Il était évidemment question surtout de Geneviève, histoire d'une servante, beaucoup moins des textes de Rengarde qui étaient beaucoup moins accessibles à l'époque qu'ils ne sont aujourd'hui grâce à Gallica. Et en fait, on le comprend aussi parce que ce qui se joue là, c'est autant la question d'une définition de la poésie et de la place de la poésie populaire. Et ce qu'on perçoit aujourd'hui, ce qu'on essaye de penser, c'est la question de Camille sous la figure de l'intersectionnalité. En fait, c'est que je crois que l'enjeu majeur dans l'opération Geneviève, histoire d'une servante, se joue plus du côté de la poésie populaire que du côté du féminin. On est dans un moment où toute une partie des grands poètes encourage une production, je ne sais pas si on peut dire ouvrière, parce que le statut d'ouvrier ne signifie pas la même chose qu'à la fin du 19e, une poésie populaire, à la fois comme forme de renouveau au présent de la production poétique, hein, c'est le temps des grandes collectes romantiques de poésie populaire, et à la fois comme solution sociale, hein, à la difficulté de dialogue entre les classes sociales. Donc tous les grands y vont de leur protection, de leur texte théorique, de leur préface, Hugo, Lamartine, Sand, et vraiment, quand il fait dire à Rengarde, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle dit en fait dans cette histoire, quand il lui fait dire « je suis couturière », c'est valorisant d'une certaine façon, ça la fait coïncider avec le rôle et la posture qui est attendue d'elle. Et en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit « non, je ne suis pas poète », mais… Par ailleurs, Lamartine, dans le dialogue qui est très compliqué, il y a le rôle de la femme en témoin muet qui est aussi quelque chose d'assez intéressant qui mériterait d'être commenté, il lui dit « Vous écrivez des vers, mademoiselle Reine, lui dis-je en souriant. Je m'en serais douté rien qu'à voir vos beaux yeux rêveurs. Eh bien, voyons, je n'en écris plus, moi, mais je les aime toujours. » Les vers, c'est le bon temps de la pensée, on aime toujours à y revenir. Donc ce côté daté, ringard ou bijou de dessous du vers et de la rime que vous évoquez dans la période contemporaine, c'est déjà là et c'est déjà en train de se jouer. Alors il faudrait refaire toute l'histoire du vers, mais ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois que se recomposent les valeurs et les hiérarchies, les femmes ne sont pas toujours au même endroit. Enfin, la théorisation ne les met pas toujours au même endroit. En revanche, la théorisation on les met toujours du côté le moins valorisé. Quand le brio, la maîtrise, l'invention formelle sont mises en valeur, les femmes sont réputées pas capables de compter jusqu'à 14 et de faire un sonnet. Quand la rime devient quelque chose d'un peu clinquant, en quoi la langue française n'excelle pas, il faut chercher le vrai sens et la vraie valeur de la poésie ailleurs, bah, on va mettre les femmes du côté de la rime et en somme de ce clinquant ou de cette facilité. Donc je crois que il faut faire attention de ne pas figer des contenus, ce qui objectif, voire essentialise, et à chaque fois d'avoir en tête des panoramas. Voilà.
Merci beaucoup pour cette mise en perspective. Il y avait d'autres remarques, mais je crois qu'il faudrait, me dit-on, s'arrêter maintenant pour avoir le temps de faire 5 minutes de pause. Merci à vous pour ces communications passionnantes et pour les questions qu'elles ont suscitées.